J'ai réfuté totalement ce qui
s'est passé. Moi, j'ai été pour ici au 14 ans. Je pense que en combinant les deux bâtis de mes précédents, on fait une solution par rapport à ça.
Bonjour et bienvenue à ce premier numéro de la semaine de parole aux auditeurs. Le 8 décembre dernier, le président de la République, Joseph Kabila, a fait un discours sur l'état de la nation devant les deux chambres du Parlement réunies en congrès. Une obligation annuelle, comme le veut l'article 76 de la Constitution. Le président Kabila a fait une suite des projets exécutés, ceux en chantier, ceux à réaliser, que ce soit dans le domaine de la sécurité, de la coopération internationale, de la justice, de l'économie, de la santé, de l'éducation, des infrastructures, de l'énergie, de l'eau, de l'agriculture, des élections, autant de secteurs qui vous touchent, vous Congolais, au quotidien. Le chef de l'État a fait mention de son premier discours en 2006. Il promettait la sécurité, le développement, la modernisation à travers les cinq chantiers et sous le signe de la trilogie démocratie, bonne gouvernance et droits de l'homme. Et aussi, il a fait un parallélisme avec la situation actuelle. Vous avez suivi le discours du chef de l'État. Une seule question pour lancer notre émission. Quels sont les points forts de ce discours qui ont retenu votre attention? Au studio, nous recevrons M. Aubin Minassou, député national de la majorité présidentielle et vice-président du groupe parlementaire CPRD à l'Assemblée nationale. À la réalisation, Martin Gombo, à la mise en onde, nous avons Dieudonné Yangassa. Marie-Chantal Lumba est à la présentation.
Réagissons en direct à l'actualité dans Parole aux auditeurs par Internet en écrivant à pa@radiotapis.net.
Notre invité est en train de faire son entrée dans ce studio. Bien sûr, le temps d'éteindre son téléphone portable, ainsi qu'il puisse mettre les casques, comme ça il pourra suivre le retour des auditeurs. Bonjour, monsieur Aubin Minassou.
Bonjour.
Vous êtes venu en courant, il y a la pluie à Kinshasa, ça n'a pas été facile.
Évidemment, la pluie ne doit pas être un prétexte.
Mm-hmm.
Et donc, quand il faut travailler, il faut être là à temps.
Mm-hmm. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle qu'aujourd'hui, Parole aux auditeurs se compte sur le discours du chef de l'État. Une seule question pour relancer notre émission. Quels sont les points forts de ce discours qui ont retenu votre attention? La question que nous allons poser aux auditeurs, ils vont s'exprimer au cours de cette émission d'aujourd'hui, ce sera une émission de plus de 50 minutes, presque une heure. Et si vous voulez participer à cette émission, nous rappelons les contacts, c'est le 081-890-6315, 081-890-6315, ou nous écrire à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Avant de vous donner la parole, nous avons quand même des auditeurs qui nous ont écrit ceux qui sont intéressés à cette émission. Nous avons un premier auditeur, il s'agit de M. Moana Meshi. Il nous écrit à partir de Mbujima. Il écrit ceci: le point fort du discours de notre président est le fait qu'il a tout simplement rempli son devoir constitutionnel, celui de faire un discours sur l'état de la nation. Sur la forme, ceux qui ont eu la charge de produire ce discours, audiblement, il est bon et ils se font acquitter de leur devoir. Sur le plan du fond, tout ce qu'il a dit, c'est du déjà entendu, rien de nouveau, des promesses encore réalisées, voire toujours pas réalisées. Les conditions de vie de la population, on a l'impression que c'est le cadet de son souci, d'où l'appel à des élections libres, transparentes et démocratiques pour une alternative. Ça, c'est l'avis de Moana Meshi qui nous a écrit de Mbujimayi. Mais nous avons aussi d'autres auditeurs qui vont intervenir d'un moment à l'autre, comme Arsène, qui est au bout du fil. Nous allons avoir l'avis David Arsène dans quelques instants. Mais un autre message, c'est celui d'Éric Kaitiroa. Il écrit ceci à partir de Goma. Je veux juste réagir au sujet du jour, à savoir le discours du chef de l'État. Le président n'a pas suffisamment parlé de la situation sécuritaire au Nord-Kivu, où se trouvent encore certains militaires qui traînent les pieds pour l'intégration et faire des faits et qui refusent d'être mutés vers d'autres provinces. Ça, c'est l'avis de Éric Kaitiroa. Prenons d'abord Arsène, qui se trouve à Kikwit. Bonjour Arsène.
Bonjour madame.
Oui, Arsène, on vous écoute. Qu'est-ce que vous avez retenu du discours du chef de l'État?
Ok, je commencerai par d'abord féliciter le président de la République pour le courage qu'il a eu encore à prononcer ce discours-là. Mais, je vais ajouter ceci. Le président de la République, quand il a fait son discours, pour moi, c'est un discours vide. Il y a un grand vide dedans, ce ne sont que de bonnes paroles et de bonnes intentions. Ok. En ce qui concerne d'abord la sécurité, quand on dit qu'il y a encore des poches de résistance par-ci par-là, ça ne veut pas dire qu'il y a la sécurité. Il y a insécurité. Quand on nous parle de le point d'achèvement qu'on a atteint, c'est tout à fait élémentaire, parce que la bonne gestion, ce n'est pas quelque chose de spécial. La bonne gestion, c'est quelque chose d'élémentaire. Alors, en plus, quand le président essaie de s'échapper par la victoire de Mazembe, par l'événement du cardinal Mosengo, ça, ce n'est pas ce que le peuple est en train d'attendre. Madame, le peuple est en train d'attendre la sécurité sur toute l'étendue de la nation. La nation a besoin d'une économie forte, d'une armée forte. C'est ce que nous attendons. Le résultat de ce discours-là allait plutôt nous intéresser. Si le président aurait dit, par exemple, il n'y avait pas 10 km de route, de nouvelles routes, j'ai bâti 100 km de nouvelles routes. Si le président pouvait nous dire, j'ai bâti ceci, cela, là, le peuple serait content. Mais avec quel argent? Où est parti? Où sont partis les frais qu'on a proposés sur le budget de cette année? Qu'est-ce qu'on a fait avec? Ensuite, on nous dit, après avoir reçu tout le rapport sur l'état de la nation, quelles sont les résolutions, quelles sont les réparations qu'on a faites. Madame, en tout cas, pour ne pas vous prendre beaucoup de temps, pour permettre aussi aux autres auditeurs de prendre la parole, je dirais ceci, j'encourage toujours le courage du président de la République pour prononcer les discours que moi je trouve des fois vides, et je déplore aux compatriotes qui sont tout autour du président de la République. L'année passée, à ce même moment, pour le même événement, j'ai dit, madame, ce sont les Dialelo. Aujourd'hui, je dis, madame, c'est l'histoire ou le fable de la fontaine, le corbeau et le renard. Ils sont trop arrogants pour rien. Il n'y a rien.
En tout cas, merci beaucoup. C'est votre point de vue pour votre participation à cette émission.
Vous pensez
que le discours du chef de l'État était vide, parole des bonnes intentions, et vous pensez qu'il serait préférable qu'il y ait plus du concret, notamment vous avez essayé de soulever les routes, mais il faudrait dire quand même que dans le discours, le chef de l'État fait allusion aux routes. Il a cité quelques exemples, la reconstruction de la route nationale 1 du plateau de Bateke à la limite du Kasaï occidental, il a aussi l'étudiage de la route numéro 1 de Moanda-Boma. Il a cité quelques exemples, mais vous pensez que c'était assez creux. Et c'est votre avis, Arsène. Et vous souhaitez que cela puisse changer, par exemple, la victoire de Mazembe. Bon, c'était pas vraiment votre souci, c'est plus ce qu'attend le Congolais, surtout sur le plan social. On vous remercie encore une fois. Nous prenons bienvenue de Kitangali. Bonjour.
Bonjour madame Chantal Ouma, et bonjour tous les auditeurs de la radio Kassi.
Et qu'est-ce que vous avez retenu du discours du chef de l'État?
Madame, j'ai écouté, j'ai suivi avec tout intérêt ici à Kisangani le discours du chef de l'État. Et je vous assure, le chef de l'État, il a parlé mais il n'a rien dit. Qu'est-ce qu'on n'a pas écouté? On a tout écouté. écoutez, on est assez de ça. Madame Chantal, on n'a pas besoin de discours. On a besoin des actions. On n'a pas besoin de discours. Sur le sujet, moi, j'interviens par rapport à deux points, pour le social et puis pour le problème de la CENI. Et je commence d'abord par le problème de la CENI. La CENI, que le chef de l'État devait débloquer. Puisque moi, je vous assure, celui qui est en train de bloquer ça, par rapport au candidat Daniel Ngoï Moulouna. Daniel Ngoï Moulouna, il est du PPRD. Il est membre fondateur du PPRD. Que Daniel Ngoï Moulouna quitte cette institution qui doit être maître et qu'on lâche les gens qui sont compétents.
Bienvenue. Nous sommes en train de parler du discours du chef de l'État. Vous avez soulevé le point qui a retenu votre attention, le social mais aussi la CENI. Vous pensez que le chef de l'État qui est en train de bloquer, et à votre avis, qu'est-ce qui se pourrait être fait? Vous vous attendez à quoi dans ce discours? Quelles étaient vos attentes en entendant? Je ne sais pas que vous dites que les discours, vous en avez marre, mais il ne faudrait pas oublier que c'est une obligation constitutionnelle du chef de l'État à pouvoir présenter un discours sur l'état de la nation devant le Congrès, donc l'Assemblée nationale et le Sénat. Donc c'est un devoir constitutionnel, mais on a l'impression que vos attentes, ce que le président a dit, ce n'était pas vos attentes, mais qu'est-ce que vous aurez voulu qui puisse apparaître, mais qui n'a pas pu être peut-être inséré, ou bien... Quelles étaient vos attentes, bienvenue.
Merci, Madame Chantal. Nous attendions quoi? Nous attendions que le chef de l'État arrive à concrétiser le social. Il a dit quoi? Il va payer les gens. Et je vous assure, Madame Chantal, jusqu'alors, le chef de l'État ne paye pas les gens. Les gens sont impayés. D'abord, ici, c'est moi qui s'en gagne. On veut maintenant compter à chasser les étudiants. Et
Donc, on comprend bien, bienvenue, votre problème qui est plus de type. Donc, par exemple, dans ce discours, qu'on puisse avoir plus de chiffres, nous avons payé autant, nous comptons faire ceci avec des chiffres. C'est ça votre préoccupation, bienvenue.
Pardon.
Il y a plus de chiffres dans le discours du chef de l'État. C'est ça votre attente.
Ok. Nous, nous attendions comment qu'il puisse payer nos parents. Le point du social. Pour que nos parents arrivent maintenant à nous donner des frais académiques, pour que nous puissions maintenant au niveau de l'université.
Merci beaucoup, bienvenue. Votre préoccupation, c'est sur le plan social. Vous pensez que ça n'a pas été relevé. Nous vous remercions, bienvenue de Kitanani. Nous prenons Benoît de Mambasa. Bonjour, Benoît.
Bonjour, madame.
Et quels sont les points qui ont retenu votre attention?
Moi, je vais seulement parler d'un seul point, là où il a parlé de la sécurité judiciaire et juridique, comme étant un facteur de croissance et de développement, croissance économique. C'est bien ce qu'il a dit, mais il ne nous a pas vraiment donné comment maintenant nous aurons cette sécurité judiciaire et juridique quand nous savons ce qui se passe dans nos tribunaux et dans nos parquets. Cependant, j'aurais dit, pour qu'on soit par croissance économique, je m'attendais à ce qu'il nous donne une solution, par exemple, pour les tracasseries de tout ordre administratif. Vous avez dernièrement appris, nous sommes arrivés à 17 services en nos douanes sanitaires. C'est récent que peut-être le gouverneur a mis fin à cela, mais ça va durer combien de temps, parce que chaque fois on chasse des services et demain ils reviennent. Je crois que par conscience économique également, il aurait dit les conditions des investisseurs, parce que nous parlons toujours d'emploi, nous parlons toujours de chômage, mais les conditions ne sont pas réunies. À part cela, les tracasseries, je vais vous donner un cas qui m'a frappé, si vous le permettez. Les gens, ils se sont donné...
S'il vous plaît, Benoît, j'espère que c'est un cas qui est lié au discours du chef de l'État.
J'aurais dû parler de sécurité, de la libération des stations, par exemple.
Merci beaucoup, Benoît. Merci pour votre intervention. Vous souhaitez avoir plus d'informations dans le domaine de la justice, par exemple les voies et moyens concernant la réforme de la justice, mais aussi plus de précisions concernant l'économie. Encore, on a l'impression que les auditeurs attendaient plus de chiffres dans le discours du chef de l'État. Et nous allons revenir dans ce studio avec notre invité. Je rappelle qu'il s'agit de M. Aubin Minakou, il est député national de la majorité présidentielle et vice-président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale.
Parole aux auditeurs.
Monsieur Minakou, vous avez suivi nos auditeurs. Ils sont vraiment exigeants par rapport au discours du chef de l'État. Chacun a donné son point de vue. Quelle est votre réaction?
Oui, je suis d'abord satisfait dans la mesure où les compatriotes sont en train librement d'exprimer leur point de vue. C'est cela aussi la démocratie. Ils sont en train de critiquer de façon ouverte, sans crainte, le discours du premier de la République, à savoir le chef de l'État. Et donc, je crois qu'il faut retenir cet élément. Parce que qu'on a fait un petit pas en avant, parce que dans le passé, ça n'a toujours pas été ainsi. Je dirais qu'il y a deux sortes d'interventions. Premièrement, il y en a ceux qui profitent de ce micro pour tenir un discours de propagande. C'est leur droit.
Pour qui ?
De propagande pour leur opinion pour politique, leur parti politique, c'est leur droit.
Ils parlent en tant qu'individu,
oui,
hein,
c'est leur droit. Oui, c'est leur droit. C'est leur droit. Mais il y en a aussi d'autres qui essaient de critiquer librement, de façon acerbe, le discours du chef de l'État en proposant des solutions dans l'intérêt de la République. Moi, je suis plutôt dans ce registre-là, de ceux qui critiquent, qui font des observations, j'essaie d'apporter un plus. Enfin, mon constat, c'est que beaucoup auraient souhaité que le chef de l'État soit très précis. Chiffre, qu'est-ce que nous allons faire? Ce n'est pas cela la matière d'un discours relatif à l'état de la nation. Sinon, il prendrait 10 heures, 15 heures, 22 heures. Il a tablé tous les principes, mais sans cesse de suivre les jours qui viennent, les semaines, les mois qui suivent, est-ce qu'il y aura une mise en œuvre des résolutions prises dans ces discours? C'est cela les éléments pratiques de mise en œuvre. Bon, voilà, ça c'est en guise d'introduction. Concernant la question de la sécurité, ou mieux, je préfère commencer par le social, hein, parce que beaucoup parlent de social. C'est vrai, c'est une préoccupation récurrente. Mais on ne peut pas délibérer sur ce bilan perspective sans avoir une approche comparative. D'où venons-nous? Où étions-nous les 40 années dernières? Nous étions sur le plan social dans un gouffre indéfinissable. Et où sommes-nous arrivés? Lorsque vous faites cette approche comparative objective, vous allez vous rendre compte que nous avons fait un pas. Je vais aussi donner quelques chiffres. Mais l'essentiel, c'est que le chef de l'État a dit, avant d'aborder le social, c'est que nous avons atteint le point d'achèvement. Ce n'est pas une affaire simple, atteindre le point d'achèvement. Comme contrairement à ce qu'elle a dit un des compatriotes, je crois celui qui est intervenu le premier, ce n'est pas élémentaire. C'est qu'en réalité, le point d'achèvement, nous l'avons recherché depuis l'époque de Kengo Adonde, le premier ministre, lorsqu'on l'appelait l'homme de la rigueur. Et lorsque, chaque fois qu'on n'atteignait pas le point d'achèvement, il y en a qui critiquaient le gouvernement en disant que c'est parce qu'il y a mauvaise gouvernance, c'est parce qu'on n'est pas discipliné. Maintenant qu'on a atteint ce point d'achèvement, il faut au moins reconnaître le fait que c'est à la suite d'une certaine discipline budgétaire. Et le point d'achèvement est un maillon important pour aborder le social. Parce que le point d'achèvement permettra à la République de disposer de suffisamment de ressources financières. Voilà. Maintenant, les chiffres. Évidemment, s'il fallait étaler tous les chiffres, il prendrait peut-être 15 à 20 heures. Je vous donne un exemple pratique. On ne peut pas parler du social sans évoquer l'enseignement, n'est-ce pas? Je crois que toute la population est en train de dire oui. On ne peut pas parler du social sans évoquer l'enseignement national. Mais je vous donne un chiffre. De 1985 jusqu'en 2007, l'État congolais a mécanisé 100 000 enseignants. Pendant 22 ans, moi je m'abuse. De 85 à 2007.
l'État congolais, je dis, a mécanisé 100 000 enseignants. De 2007, lorsqu'on a décidé d'une certaine politique pour booster l'enseignement, malgré les difficultés conjoncturelles et structurelles, de 2007 à 2006, à 2010, l'État congolais a mécanisé 400 000 enseignants. Ça signifie en 4 ans, 3 ans, l'État congolais a embauché 4 fois plus d'enseignants que pendant 22 ans. C'est significatif.
Mais
le peuple ne s'en rend pas compte immédiatement. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'aujourd'hui, il y a plus d'enseignants pour encadrer nos enfants. Et quand il y a plus d'enseignants pour encadrer les enfants, il y a une probabilité que l'encadrement soit meilleur et nous aurons des enfants mieux formés pour bâtir la République, reconstruire la République. Voilà. Mais vous voyez, donc, c'est des chiffres qu'on n'a pas nécessairement lus dans les discours, mais il y en a tant même en matière de route. En matière de route. De 1960 jusqu'en 2004, les routes congolaises, les routes nous léguées par la colonisation, ont été presque toutes détruites. Il y a des pourcentages. Mais aujourd'hui, même pas détériorées, je crois que c'est même plus une souple, plutôt c'est détruite, complètement amortie. Mais aujourd'hui, on peut vous donner des chiffres qui démontrent qu'on est maintenant dans une pente ascendante.
Là, vous rejoignez carrément les auditeurs avec les chiffres. C'est tout facile à comprendre ce qui a été fait par rapport quand ce sont des phrases. C'est un peu compliqué de comprendre.
Oui, mais les phrases émanant du chef de l'État, je crois que tout le monde comprend la teneur du concept du chef de l'État.
Mmh.
Il faut au moins faire confiance à ces phrases et vérifier par la suite, au lieu de se mettre à critiquer en l'air.
Oui, allons-y alors sur la question de la CENI. Il dit, notre auditeur bienvenue, pour avoir un peu, il voudrait que ça puisse avancer le plus vite possible, le plus tôt possible. Il a même cru qu'à un moment, il a même dit carrément que c'est peut-être le chef de l'État qui est en train de bloquer ce processus.
Bon, je crois que là, c'est une analyse malveillante, mais il y a des circonstances atténuantes. Le chef de mon compatriote, parce que peut-être qu'il n'a pas toutes les informations. Voici la situation de la CENI. Il y a une loi qui a été adoptée et promulguée portant en création et organisation de la CENI.
Mm-hmm.
Et au moment de l'adoption de cette loi, l'Assemblée nationale et le Sénat, dans une commission paritaire, avaient défini la teneur du concept indépendant. Qu'est-ce qui est indépendant pour faire partie, pour être admissible comme membre de la CENI, parmi les 7 membres? Nous avions défini l'indépendance et c'est confié par écrit. Et ce rapport a été signé, je suis parmi les signataires, mais ça a été signé aussi par les amis de l'opposition, les Njoli, le président du groupe parlementaire du MLT, François Mamba et les autres. Tous l'ont signé. On a dit ceci, l'indépendance signifie ne pas être formellement rattaché à un parti politique. Membre fondateur, membre effectif, etc. Pourquoi? Parce que qui concourt aux élections? Ce sont les partis politiques. Il ne faudrait pas que ces partis politiques soient à la fois juges et partis. Bon, maintenant, on a demandé à chaque groupe de présenter des candidats. Chaque groupe les a présentés. Maintenant, il est question de voir qui est rattaché à un parti politique ou pas.
Donc, pour l'instant, il y a toujours des négociations.
Mais il se fait que certains des candidats sont soit députés, rattachés à un parti politique, soit sénateurs. Et là, il y a un petit problème. On est en train de négocier à ce propos.
Mm-hmm.
Mais concernant, je me permets de le dire, concernant le pasteur Mulunda, parce qu'on m'avait présenté, je suis du PPRD, je vous dis, sur la liste du PPRD, des membres fondateurs, le pasteur Mulunda n'est pas repris.
Il veut faire une tendance, peut-être, forcément.
C'est un problème de rattachement formel.
C'est tout clair. Et puis aussi, par rapport à cette question, dans le discours du chef de l'État, je cite, j'en appelle pour se faire au sens de responsabilité de la classe politique congolaise, c'était concernant la CENI. Donc, il veut aussi, dans ce discours, on sent qu'il voudrait que l'installation de la CENI se fasse le plus tôt possible.
Il est le premier à souhaiter que ça se fasse le plus tôt possible, mais il nous appartient d'être responsables en respectant les termes de la loi.
Nous allons suivre d'autres auditeurs qui vont donner leur point de vue, mais surtout les points forts pour savoir ce qu'eux ils ont retenu de ce discours du chef de l'État.
Vous avez des préoccupations, un besoin d'orientation, Radio Café réunit des spécialistes compétents dans Café Service. Toute une équipe de nos journalistes fait le lien entre eux et vous. Santé, emploi, santé au monde rural, droits du citoyen, ONG, tous les domaines de la vie sont concernés. Au Café Service, de lundi à vendredi, dès 9h dans le Kinshasa. Au Café Service, des astuces simples pour sortir des situations compliquées.
Bonjour Maurice.
Bonjour Madame Maurice.
Vous appelez à partir de Colésie, on vous écoute.
Ok, c'est Maurice Ngoy, le frère, je vous appelle à partir de Colésie. Moi, mon intervention, je voulais dire ceci, madame. Vous savez que le président de la République a dit que même si vous ne croyez pas à ma parole, croyez au moins à mes œuvres. Il faut dire que moi, j'étais même enchanté que la Bible nous dit ceci. Ils auront des yeux pour voir, ils ne verront rien. Ils auront des oreilles pour entendre, ils n'entendront rien. Moi, je ne suis pas Kinshasa, je ne suis pas Lubumbashi, je vous appelle de psychologie. Moi, je peux vous dire ceci. Sur le point sécuritaire, mais quand le président de la République avait pris son pouvoir, moi, j'étais à Lubumbashi. Les agresseurs et les rebelles étaient déjà à Pueto, à quelques 500 mètres de Lubumbashi. Mais au moment que nous parlons, les agresseurs et les rebelles n'existent plus. Nous avons la sécurité dans ce pays. Parce que réellement, le président de la République avait bien dit que sur les 145 territoires, il y a que 5 territoires occupés par les résidus des rebelles. Ça, c'est une réalité. Nous avons des filages, vraiment, nous avons la sécurité dans ce pays. Tiens le point de route. Moi, je vous dis que je vous appelle depuis Colombie. Les autorités de Colombie ne fermaient pas l'œil. Chaque jour, les gens réclamaient les routes. Aujourd'hui, vous pouvez vérifier à Colombie, la population de Colombie sont en train d'insister pour qu'il y ait des casques de vitesse. On ne peut pas mettre des casques de vitesse là où il n'y a pas de route. Nous avons déjà des routes à Colombie, vous pouvez vérifier. Si on est en train d'enregistrer les accidents en Colombie, c'est parce qu'il y a des routes déjà construites ici à Colombie. Là, on ne peut pas chercher à diaboliser le président de la République. Mais il y a un point très essentiel que le président de la République a dit. La réunification des villages. Les sociales, nous chantons les sociales. Nous avons dans ce pays des gens qui ne veulent pas travailler, madame. Nous n'avons plus de villages. Or, ce n'est pas avec le pourcentage le plus élevé de la population dans des centres urbains que nous allons sentir ces sociales. Il faut que notre population, si nous avons le pourcentage de la population dans des centres ruraux, là où on peut produire, là où on peut cultiver, nous aurons à sentir vraiment le social. Le président de la République a fait quand même quelque chose dans ce pays, il faut reconnaître. Dès qu'il réclame la sécurité, ce sont les mêmes gens qui ont créé l'insécurité dans ce pays, en créant les rébellions, en appuyant les agresseurs. Aujourd'hui, il cherche à dire au président de la République de la sécurité, pendant que ce sont les mêmes gens qui ont fait l'insécurité dans ce pays. Là, moi, je pense à mon avis. Ce n'est pas le président de la République qui peut faire son bilan. Par contre, c'est la population. Nous, la population congolaise, nous savons comment est-ce que nous faisons notre bilan. Nous faisons le bilan du président de la République. Nous savons très bien qu'il n'a pas fait la totalité de ce qu'il allait faire, mais il a fait quand même quelque chose. Il a fait quand même quelque chose.
Merci beaucoup. Maurice, on peut retenir l'amélioration du social d'abord par le travail, mais aussi le travail abattu. Donc, merci beaucoup Maurice pour votre intervention à partir de Colombie. Vous avez même repris les phrases du chef de l'État. Si vous ne croyez pas à ma parole, croyez au moins à mes œuvres. Hein. C'est un peu ça ce que vous avez repris. Nous vous remercions. Nous prenons l'instant de Kinshasa. Bonjour.
Ah, bonjour, madame.
Une instant, on vous écoute. Qu'est-ce qui a retenu votre attention au cours de ce discours du chef de l'État?
Personnellement, je suis vraiment un peu honoré de participer à votre émission. Et de mon côté, je dirais que le président République a parlé pendant 90 minutes. Et pendant ces 90 minutes, il a parlé je dirais 80 minutes pour les choses qu'il doit réaliser, qui sont en projet, quoi, je peux dire. Les 10 minutes, il a parlé des choses qu'il a déjà fait. Donc, on a fait 4 ans au pouvoir, là, donc, je crois que le bilan, c'est négatif. On devrait avoir plus que ça. Donc, les Congolais méritent d'avoir plus que ça. Mmh. Les richesses que nous avons dans ce pays, nous méritons d'être plus que ça.
Et à votre avis, quelle proposition, à votre avis, qu'est-ce qui devrait être mis dans ce discours? Vous pensez qu'il y aurait, on devait avoir, par exemple, 90% de réalisation et seulement 20% dans la prospection, ce qu'on pense faire dans les jours à venir?
Non, madame, même ça, le 90%, au moins, le 90%, la moitié c'est 45%, même dans les 30%, là, les 30%, on pouvait avoir plus que ça.
Merci beaucoup Nelson. Ça fait votre point de vue. Vous pensez qu'il faudrait mettre plus un grand accent sur ce qui a été fait et rajouter aussi ce qu'on compte faire. C'est votre point de vue. Nous vous remercions. Nous prenons Arnold de Lubumbashi. Bonjour. Arnold?
Bonjour madame.
On vous écoute Arnold.
Oui, moi je dis ceci, vraiment, j'attendais vraiment le discours du chef de l'État avec impatience. Moi je crois que, concernant vraiment les thèmes santé du chef de l'État, nous sommes vraiment à un pas. Donc, nous voyons quand même le réalisme dans tous les domaines. Concernant les sociaux, nous avons quand même le travail, l'enseignement, la sécurité. Mais moi je crois que vraiment, dans tout ce que le chef de l'État a dit, il n'a vraiment été n'a pas été précis vraiment dans ce qu'il a dit. Et ce qui m'a vraiment touché, c'est le fait de soulever les problèmes de la victoire de Mazembe. Moi, je crois que ça n'a rien à voir dans tout ça. Pourquoi vraiment soulever la victoire de Mazembe quand les autres n'ont pas de travail? Et moi, je crois que vraiment, sur ce point-là, le chef de l'État, vraiment, ne m'a pas vraiment pris. C'est tout ce que j'ai mis un peu dire.
Le temps. Avant qu'on écoute aussi Bavo, vous avez donné votre point de vue, un pas dans les cinq sentiers pour à l'amélioration des conditions de vie des Congolais, mais aussi vous pensez que Mazembe, la victoire de Mazembe ne pouvait pas, ne devrait pas faire partie de ce discours. C'est votre point de vue, Arnold. Nous vous remercions. Prenons Bavo de Kisangani. Bonjour. Nous avons perdu Bavo, la réalisation pourra essayer de le recontacter. Nous allons revenir au studio avec notre invité.
Parole aux auditeurs.
Nous avons encore suivi cette deuxième série d'auditeurs, ce qu'ils pensent, surtout ce qu'ils ont retenu de ce discours. Monsieur Aubert Minaku, quelle est votre réaction?
Merci. Je dirais d'abord que dans 50 ans encore, même après 50 ans, parce qu'il faut tenir un discours sur la situation de ce pays, nous aurons besoin, quiconque sera au pouvoir, aura besoin d'au moins 70% de temps pour parler de l'avenir, des projets et des réalisations. Tellement, durant les 40 dernières années, on nous a amenés dans un gouffre bien en deçà du point zéro. C'est là le problème, donc c'est une évidence, c'est logique. Et lorsque le président de la République, dans son discours, fait état des projets, ces projets constituent déjà un pas. Ce n'est pas seulement des idées, ce ne sont pas seulement des rêves, non. Ça signifie que c'est des projets où il y a déjà disponible sous le plan financier et que bientôt on va commencer les travaux. C'est cela qu'il appelle les projets. Donc ça peut déjà être comptabilisé dans l'actif du travail du gouvernement. Sur le plan sécuritaire, là encore, une fois de plus, il faut avoir une approche comparative. Et là encore, lorsque pour une fois, le chef de l'État évoque des chiffres, alors qu'il n'en a pas évoqué par la suite pour gérer le temps, lorsqu'il évoque le chiffre 140 ou 145 territoires, certains compatriotes se permettent de dire que ce n'est pas essentiel de parler chiffres. Parce qu'il y a quand même un territoire.
Maurice a reconnu,
il dit. Voilà, mais Maurice, il a reconnu. Mais bon, je parle de façon générale, je n'entends pas là-dessus. Voilà des chiffres. Et il faut encore avoir une approche comparative. En 1980,
2018, en 2001, en 2003, en 2006, aujourd'hui, est-ce qu'on a plus de paix ou pas?
C'est
un témoignage de Lubumbashi. On a plus de paix. Il y a plus de paix, non seulement à Lubumbashi, mais en réalité même à l'Est. Aujourd'hui, il y a un prétexte fondamental, un prétexte, je dirais même récurrent, qui nous collait à la peau depuis 1994. Le Rwanda, nos frères rwandais, estimaient que au Congo résidaient des Interahamwe qui, de concert de temps en temps avec nous, constituer une menace pour le pouvoir au Rwanda. Mmh. Et voilà pourquoi il essayait d'user d'une sorte de prévention sur le plan militaire, ce qui n'est pas autorisé en droit international. Mais aujourd'hui, ce prétexte n'existe plus. Parce que, à l'initiative, sous l'impulsion de certains amis, notamment les États-Unis, nous nous sommes mis ensemble, nous avons fait la guerre ensemble, et nous continuons à coopérer sur le plan militaire pour qu'il y ait la paix et au Congo et au Rwanda. Le fait d'avoir annulé ce prétexte, mais vous ne vous rendez pas compte, c'est une grande évolution sur le plan sécuritaire.
Il y avait même eu une opération conjointe entre le Rwanda et la RDC et pour pouvoir mettre fin.
Voilà, et donc je dirais que lorsqu'on a une approche de propagande, vous savez, nous sommes aujourd'hui dans une période électorale, on dira autre chose, mais quand une approche objective, on va nécessairement passer par une sorte de comparaison et se rendre compte qu'en réalité nous avons fait un pas. Moi j'aime beaucoup ce qu'on en a parlé, vraiment.
Un compatriote. C'est la vie d'un Congolais.
Je vous ai aussi donné mon avis. Vraiment un compatriote, qu'il soit humanien comme moi, avec le bien de Lupopo ou de Mazembe. Aujourd'hui, après cette double victoire, lorsque c'est évoqué par le chef de l'État en quelques secondes, avec notamment la création du cardinal Monsengo, est-ce vraiment, en tant que Congolais, on peut considérer que c'est négatif? Voilà.
C'est ton avis, mais nous rappelons quand même aux auditeurs, c'est les avis des auditeurs, pas de propagande, chacun donne son avis, on ne représente pas les partis politiques,
voilà,
ni les regroupements, et chacun donne son avis, c'est pourquoi même cette émission existe, c'est pour donner la parole aux auditeurs. Nous allons écouter John Ndomene Bitou, Bavon Bekengani et David Debouté. Motu, juste après ceci.
Parole aux auditeurs.
Bonjour John.
Oui, bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de Radio Okapi.
Oui, quels sont les points forts de ce discours qui ont retenu votre attention?
Oui, madame, si moi j'ai voulu intervenir, c'est par rapport à la réaction de certains auditeurs que j'ai suivis, qui parlent notamment de Colésie.
Mm-hmm.
Alors, je voulais rappeler que le Congo n'est pas seulement Colésie. Colésie ne représente rien lorsque vous considérez l'étendue de la République démocratique du Congo.
Mm-hmm.
Et le président de la République, mais le président du Congo, il n'est pas seulement président, c'est pas du Katanga ou de Bukavu, mais il est président de la République. Et dernièrement, le président de la République s'est engagé à faire Kabinda par route. Il n'est pas arrivé à Kabinda. Donc, à partir de Mbujima, il n'est pas arrivé à Kabinda. Il est rentré carrément à Kinshasa. Donc ça prouve qu'à Kabinda, il n'y a pas de voie qui relie Mbujima et Kabinda facilement pour que le président de la République arrive à Kabinda. Aujourd'hui, le président de la République ne peut pas s'engager de Mbujima pour arriver à Lodja, à route. Donc c'est pour dire que, franchement, ça démontre quelque part qu'il n'y a pas une redistribution équitable des ressources du pays. Donc si on a réhabilité les routes à Colésie, on a réhabilité les routes à Matadi, on a réhabilité les routes à Bukavu, mais il y a des points du pays où c'est encore vraiment de calvaire. Et aujourd'hui, dans ce coin-là, quand il pleut, les gens jubilent. Mais y a pas, la régie des eaux n'arrive pas à pouvoir desservir la population en eau potable. Donc tout ça, ça montre qu'il y a encore vraiment du pain sur la planche. Et nous posons des questions avec le peu de temps qui reste. Est-ce que franchement, on aura à dire que les cinq chantiers ont réussi en République démocratique du Congo et sous le mandat du président Joseph Kabila? Voilà mon intervention.
Merci beaucoup John. Donc il y a des choses qui ont été faites, mais il reste encore beaucoup à faire. C'est ça en gros ce que vous voulez nous dire. Nous vous remercions. Nous prenons Bavon de Kisangani. Bonjour Bavon.
Bonjour Marie Chantal.
On vous écoute Bavon.
Oui, je peux dire le point fort de ces discours. D'abord, je commence d'abord à apprécier ce discours. C'est un discours qui a respecté presque toutes les formes. Le point fort que moi j'apprécie, c'est le fait de dire, si sur 145 territoires de la République démocratique du Congo, il n'y a que 5 territoires qui sont encore
qui connaissent des perturbations.
Qui connaissent des perturbations.
Mm-hmm.
Alors, est-ce qu'il compte chaque jour combien de Congolais qui tombent dans ces 5 territoires? Aussi, je peux dire à notre invité qui est aussi là, le fait de jouer, ce n'est pas dire que vous n'avez pas fait aucune chose. Vous pouvez réaliser 49%, 47%, mais vous échouez. Nous apprécions ce que le président Kabila a fait, mais en bref, nous disons qu'il a échoué à son mandat. C'est presque tous les plans. Si nous prenons la sécurité, l'insécurité.
Merci beaucoup, Babo de Kisangani. Vous avez donné votre point de vue. Vous avez fait même un jeu de chiffres. 49%, et même si on a fait quelque chose, mais ce n'est pas suffisant. Nous prenons David de Butembo. Bonjour.
Bonjour, Marie-Chanson.
Oui, David, on vous écoute.
Oui, je salue d'abord tous les auditeurs de la radio Patrick. Bon, je vais juste évoquer la question sur le point de vue social. Depuis le discours de chef de l'État réuni au Congrès. Marie-Chantal, je crois, depuis les années, lors de l'investiture du président de la République au gouvernement, on a prévu de rétablir le Congo. Mais il y a une question qui se pose. Est-ce que le problème des salaires des enseignants et même des militaires, jusqu'au moment où nous parlons, avec le peu de temps que nous recevons, d'une année, donc d'abord que dans peu de temps que nous allons encore organiser le scrutin qui se trouve au pays, je ne sais pas quel bilan que le président de la République a prévu dans peu de temps pour résoudre le problème des salaires des enseignants pour les accords de mots du pays. Et puis surtout, je pourrais encore soulever le point qui connaît ce matin, on venait d'attendre que l'Université de Kinshasa va bientôt risque de consommer une annonce sur le problème de la grève qui se présente par les corps professoraux. Alors tout cela, le président de la République a prévu aussi avec le peu de temps pour résoudre les problèmes comme l'Université nationale et la République démocratique du Congo.
Donc ce sont vos préoccupations, mais dans le discours, il est aussi question, hein, il a parlé des universités en RDC. Voilà, David, merci beaucoup pour votre intervention. Vous posez des questions pour savoir s'il y aura année blanche ou pas. Donc là, c'est peut-être au niveau de l'université qu'on pourra avoir plus d'informations. Ça concerne aussi le ministère et de l'enseignement supérieur et universitaire. Merci, David, de Butembo. Pour votre participation. Bonjour Fabrice.
Oui, bonjour madame.
En plus, on vous écoute.
Oui madame, c'est une déception une fois de plus que le président de la République vient de nous faire une fois de plus à l'Assemblée.
Et vous attendiez à quoi Fabrice?
Effectivement, le 5 chantier a échoué. Tout ce que le président de la République a fait, ce n'est que les bonnes intentions qu'il n'a fait qu'afficher. Le 5 chantier a échoué. Je prends l'exemple de chez nous ici au Café Occidental. Il n'y a pas de route. Il n'y a pas d'école, il n'y a que de la peinture qu'on est en train de remettre dans le vieil bâtiment. Il y a même la photo des TP Ngaliema qu'on vient de réhabiliter à Kinshasa, qu'on a assisté ici à Kananga. Vous imaginez ça? Vous trompez la population. Il y a la route qu'on a réfectionnée.
Donc, à votre avis, Fabrice, rien n'a été fait du tout. Vous n'avez rien constaté à Kananga.
Je vous l'ai dit, madame, il n'y a rien.
C'est votre point de vue, Fabrice. Nous vous remercions pour votre participation. Nous prenons Stanley de Mbandaka. Bonjour.
Oui, bonjour.
Stanley, on vous écoute. Quels sont les points qui ont retenu votre attention?
Oui, je m'a confirmé que, comme tout le monde le dit, que les 5 chantiers, c'est un soldat. À l'Équateur, c'est au jeu noir sur blanc que les 5 chantiers, c'est un soldat vrai. Parce que les chiffres de l'État, pendant une heure et demie qu'il a tenu son discours, il n'a fait allusion à aucun chantier, même en introduction à l'Équateur.
On a parlé quand même de l'hôpital de Guémena qui a été lancé. Hein. Je pense que Guémena est dans l'Équateur.
Je ne sais pas si les autres, vous avez suivi les travailleurs de Guémena. Ils ont dit les 5 chantiers par jour, les Himalayas sont payés peut-être à 1000 hectares. Ils ont abandonné, ils ne le savent pas.
Le chantier a démarré, mais aux arrêts.
Aux arrêts, c'est abandonné. Donc, en Bambara, il n'existe pas de 5 chantiers à l'Équateur. Nous considérons que nous ne pouvons pas seulement de l'action pour faire partie de ce.
C'est votre point de vue, Tani. Nous allons donner aussi la parole à d'autres auditeurs qui veulent s'exprimer. Je rappelle le numéro de contact, c'est le 081-890-6315, 081-890-6315. Et je rappelle à Tani que c'est une émission où d'échange avec beaucoup de courtoisie et vraiment beaucoup de respect. Ce n'est pas une tribune pour pouvoir déplacer les mots, donc avec beaucoup de courtoisie pour pouvoir comprendre et avancer dans ce que nous sommes en train de faire. Parce qu'après tout, c'est notre pays, la RDC, et tous nous avons besoin d'un développement. Je vais reprendre Gaspard, tout juste après ceci.
Chaque vendredi de 19h15 à 20h, Radio Tapi vous propose sa cellule de la presse. Des analyses, des explications et un débat autour de l'actualité de la semaine avec les journalistes de la presse écrite et des visuels. La cellule de la presse, vendredi de 19h15 à 20h, un résumé complet de l'actualité de la semaine. La tribune de la presse, c'est l'actualité vue par ceux qui la traitent. C'est aussi sur le site internet de Radio Tapi, www.radiotapi.net.
Avant de donner la parole à Gérard, nous revenons avec notre invité, M. Aubin Minakou. Je rappelle que vous êtes député national de la majorité présidentielle, mais aussi vice-président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Encore une fois, des exigences des auditeurs. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire?
Oui, je comprends les exigences des auditeurs et je vais me répéter une fois de plus. C'est tout simplement parce que nous sommes dans un tel groupe que pour sortir de là, il faut beaucoup de travail et ça va prendre du temps. Le 5 chantier, ce n'est pas une affaire de 5 ans. Pour construire un chemin de fer de Boma à Kasumbalesa, 5 ans ne suffisent peut-être pas. C'est un nouvel esprit, un nouveau mode de gestion, d'orientation des moyens de la République pour la reconstruction de la République. Et je crois, depuis 2 ans, parce que même la mise en œuvre de ce chantier a connu quelques retards, vous vous souviendrez des débats à l'Assemblée, un peu partout sur le contrat chinois, etc. Donc, mais nous pouvons nous rendre compte que dans un laps de temps de 2 à 3 ans, nous avons connu dans ces pays des travaux comme on l'a jamais vu il y a 15, 20, 30 ans. Posez la question à la jeunesse, vous aurez une réponse claire à ce sujet. L'un des compatriotes a parlé de Colosie. L'autre a fait état de Cabinda. Mais si le chef de l'État est allé à Cabinda, c'est dans le cadre de ce travail. C'est pour se rendre compte de visu de la situation autour de Cabinda. Et donc, il ne faut pas évoquer cela de façon péjorative. Celui qui a parlé de l'Équateur, je m'excuse, mais je crois qu'il connaît peut-être pas bien l'Équateur. Il y a aujourd'hui des coins dans l'Équateur qui, depuis 20 ans, n'avaient plus une seule goutte d'eau. Mais aujourd'hui, ces villes ont au moins 30 mètres cubes d'eau l'heure, alors qu'en réalité, ils ont besoin de 74 mètres cubes. Nous avons avancé vers 30 mètres cubes. Ce n'est peut-être pas suffisant, mais le verre est quand même à moitié rempli. Voilà,
la personne
mais voilà, celui qui a une approche politique dira qu'on n'a rien fait.
Donc,
alors que depuis 20 ans, il n'y avait aucune goutte d'eau. Si je parle de ma province, le Bandundu, la route Kinshasa, Kikwite, jusqu'au pont Luangé. Mais c'est une route, la route est un marché, disent les économistes. Mais c'est une route marché entre le Kasaï occidental, le Bandundu et Kinshasa. Cette route ne bénéficie pas seulement aux Chinois. Cette route, c'est aussi un acquis, c'est aussi un plus pour le Kasaï occidental. Et lorsque l'on ne veut pas comparer, l'on ne veut pas lire d'abord les travaux avant de critiquer, évidemment, c'est facile de dire qu'on n'a rien fait.
La demande est forte et peut-être ce qui est en train d'être fait considère ce n'est pas suffisant.
Voilà, et cette demande sera forte pendant encore de nombreuses années. puisque nous avons perdu plus de 40 ans, comme l'avait dit l'un des intervenants, à Santé de Jalelo.
Voilà, nous avons Vienne, plutôt Franck, qui nous a écrit à partir de Vienne, à partir de notre adresse internet ca@radiocapi.net. Il écrit ceci: le discours du chef de l'État a été suivi avec attention. Il s'est exprimé sur l'état de la nation sur tous les points. Je suis personnellement d'accord avec lui, car il reconnaît que nous avons encore beaucoup à faire. Notre pays a été détruit pendant des décennies, nous le savons tous. Il nous faut des efforts manifestes de part et d'autre. Nous souhaitons que ce bilan présenté par le chef de l'État stimule encore notre élan de la reconstruction, surtout à nos décideurs politiques au sein des institutions dirigeantes, de le savoir qu'ils doivent également se mettre à la place des pauvres citoyens de la classe moyenne. Il ne faut pas se contenter de la réalisation d'un seul projet, car le bien-être de la population doit être ressenti sur l'ensemble des domaines de la vie nationale. Nous sommes venus de très loin et nous avons encore beaucoup à faire sur tous les plans. Nous prenons Gérard de Ixiro, qui sera notre dernier auditeur de cette émission. Bonjour Gérard.
Bonjour madame.
Oui, en une minute Gérard, qu'est-ce que vous avez retenu du discours du chef de l'État?
Oui, d'ailleurs, ce discours-là, je l'avais bien suivi. Et selon les analyses faites par d'autres auditeurs, moi, je félicite tout le monde, le président, de sa manière de travailler. Il a fait un discours messager, parce qu'il est reconnaissant qu'il n'a pas respecté les discours qu'il a toujours, dans lesquels il a toujours promis le social de la population, c'est vrai. Mais l'analyse que je vais le faire par rapport à mon milieu, parce que je me trouve ici à Ituro et plus particulièrement à la province orientale.
Oui, Gérard, parce que là, nous avons plus de temps. Le temps qu'on puisse aussi lire le mail de Herman Tipotip, de vous dire, mais redonner la parole à notre invité pour la conclusion. On s'excuse, Gérard, de pouvoir vous interrompre. Herman Tipotip nous écrit ceci: je trouve bon le discours du chef de l'État, mais sur dans le domaine sécuritaire, il faut faire mieux et encore davantage pour que la paix soit totale. Et nous allons redonner la parole à notre invité, parce que là, nous sommes suivis par le temps. Pour conclure, au regard de tout ce que les auditeurs ont dit, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Ce sont les avis de chacun, mais en définitive, à votre avis, en conclusion, qu'est-ce que nous pouvons retenir?
Ce que nous devons retenir vient d'être dit par le dernier intervenant. Il faut faire mieux, il faut faire davantage. Il y a beaucoup à faire. Et pour arriver à atteindre un niveau acceptable de reconstruction de la République, c'est une question de temps, c'est une question d'abord de travail, c'est une question de discipline.
5 ans, ça ne suffit pas?
5 ans, c'est déjà bon. On peut mener le pays quelque part en 5 ans, mais plus de 5 ans, c'est davantage plus intéressant, parce que en 50 ans, nous aurons encore à beaucoup travailler pour atteindre le niveau de certains pays, notamment en Occident. Donc, il nous faut davantage d'unité, davantage de discipline et de travail, et cela dans un cadre démocratique. Et le cadre démocratique, il est là, parce que notamment en ce qui concerne les élections, elles seront organisées en 2011 pour que, s'il y a lieu, il y ait alternance, comme l'a dit l'un de mon patriote.
Nous vous remercions, Monsieur Obaminyaku, d'avoir participé, d'avoir accepté notre invitation. Cette émission qui était consacrée sur les avis des auditeurs sur le discours du chef de l'État sur la nation de l'État. Nous disons merci à tous les auditeurs, merci à tous les auditeurs qui sont intervenus au cours de cette émission, sans oublier ceux qui nous ont suivis avec attention, qui se soient en FM, donc en RDC, ou sur www.radiocapi.net. Ça, c'est notre site où vous pouvez aussi nous suivre, parce que cette émission sera mise sur le site et vous pourrez télécharger et l'écouter à volonté. Nous prenons donc rendez-vous pour demain pour un nouveau numéro de Parole aux auditeurs.
Allô? 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 Tu ne réponds pas?
Et demain, nous allons parler économie. Vous l'avez sûrement constaté, la flambée des prix des aliments et des produits manufacturés de première nécessité sur le marché, et à la veille des fêtes de fin d'année. La question qui va lancer notre mission de demain, qu'en pensez-vous? Vous pouvez réagir dès à présent en nous écrivant à l'adresse internet pa@radiocapi.net. Nous disons merci à toutes les personnes qui ont réalisé cette émission, notamment Marcel Ngombo, Pierre Lamézi, sans oublier Dieudonné Ndambassa qui était la mise en onde. Marie-Chantal Lumba était à la présentation. À demain et restez branchés sur Radio Capi pour la suite de ces programmes. Thank you.